Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon jeudi, bon début d'après-midi. Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. J'espère que vous allez bien. C'est l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Suite à un sondage mené par la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, qui posait cette question, à savoir, est-ce qu'il est possible de bien vivre avec une maladie cognitive? La Fédération a récolté des réponses qui sont quand même assez, je dirais, déstabilisantes. La moitié des Canadiens pensent que non. Janvier, c'est le mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, donc c'était un moment approprié pour en profiter afin de changer l'attitude négative qui existe à l'endroit des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Tout ça à travers une campagne de sensibilisation qui s'appelle « Encore là ». En deuxième partie d'émission, José-Lisa Lefrançois, directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, pourra nous en dire davantage. Aussi, je pose cette question, est-ce que la séparation ou le divorce des parents affecte réellement les enfants? C'est une question qui est assez légitime de se poser parce que si l'on regarde un petit peu autour de soit on se rend compte qu'il y a beaucoup de séparations, beaucoup de divorces également. Si vous êtes dans cette situation-là, ça se peut aussi que vous soyez inquiet des effets de votre séparation sur vos enfants. Et en plus, lorsque l'on sait que la façon dont le parent va gérer les nombreux changements, ça aura des impacts sur le bien-être des enfants, je pense que c'est assez pertinent de s'y pencher. J'en parle un instant avec Mélanie Dugas, coach familiale, conférencière, formatrice et fondatrice de Grandir. Mélanie Dugas, bonjour.
Bonjour.
Une séparation, un divorce, c'est difficile pour les adultes, donc on peut s'imaginer facilement que ça soit difficile pour les tout-petits qui vont passer à travers plein d'émotions, dépendamment de leur âge aussi. À quel genre d'effet on peut associer la séparation sur le comportement, le bien-être d'un enfant?
Effectivement, c'est sûr que ça va avoir un impact sur les enfants. Et vous l'avez dit, là, ça a un impact sur les adultes. Donc, c'est normal qu'eux aussi, ils vont en vivre toutes sortes d'émotions. Puis à ça, il peut avoir des réactions différentes. Parce que, tout dépendant aussi des enfants, de leur tempérament, ça dépend aussi de comment tout le processus de séparation s'amorce. Il va y avoir des changements différents. Ceci étant dit, souvent, on va remarquer chez les enfants les plus petits. Donc, si je parle, disons, du 0-3 ans, ça va plus être au niveau des fois, il va y avoir des changements dans les routines. Donc, il peut y avoir de l'insécurité reliée à ça parce que là, c'est plus nécessairement pareil. Il peut y avoir un impact sur le sommeil. Alors, sur les enfants, vont avoir des réveils plus fréquents, vont avoir de la difficulté à s'endormir. On peut voir parfois monter une escalade de crise parce que c'est leur façon de s'exprimer, le vocabulaire n'étant pas non plus tout à fait à point. En vieillissant, là, les enfants, si on parle peut-être plus 3-5 ans, même 6-12 ans, si on les englobe, il peut quand même toujours y avoir un impact sur le sommeil. Il peut y avoir des enfants aussi où est-ce qu'on va voir apparaître des régressions. Donc, dans le 3-5 ans, des enfants qui étaient propres, par exemple, tout d'un coup, ne le sont plus. Des enfants avec qui ça allait quand même assez bien à la maison, tout ce qui touchait la gestion des émotions, ça devient beaucoup plus difficile, puis il y a une augmentation des crises, comme on mentionnait, ou des colères. Certains enfants, ça va créer aussi, c'est quand même un facteur assez stressant dans les facteurs de stress dans les échelles qu'on va voir, les causes de stress qu'on peut vivre, le divorce fait partie des plus hauts.
Ouais.
Donc, avec déménagement et problèmes financiers, par exemple, le divorce en fait partie. Alors, c'est certain qu'il y a des enfants où est-ce qu'ils peuvent avoir beaucoup de peur. Alors, on va voir des peurs apparaître, peut-être les difficultés reliées soit à leur capacité attentionnelle, des difficultés scolaires. Des enfants aussi, je dirais qu'en vieillissant, alors soit chez les préados ou même les adolescents, on va en voir parfois, tout dépendant du parent encore, mais il y a certains qui vont aussi prendre le rôle du parent. Alors, s'ils sentent que leur parent est plus fragile et le parent ne semble pas reprendre le dessus de tout ça, il y a des enfants qui vont chercher à prendre le rôle de protéger le parent et c'est ça serait un peu un réflexe normal parce que, bon, l'être humain était toujours à la recherche de l'équilibre. S'il n'y en a pas un qui le fait, mais moi, instinctivement, mes mécanismes de défense veulent me protéger, alors je vais le faire. Si je sens que l'autre n'est pas capable de s'occuper de moi, bien, moi, il va falloir que je le fasse et en plus, je m'occupe de l'autre.
Oui. Vous avez dit quelque chose d'intéressant, Mélanie, à savoir, ça dépend comment la séparation s'amorce, mais j'imagine aussi que ce qui se passe après la séparation a un impact, c'est-à-dire si les chicanes se poursuivent, s'il y a encore de l'animosité, l'enfant peut le ressentir.
Absolument. C'est clair que si on voit des parents être vraiment capables de faire la différence entre notre vie de couple et notre rôle de parent, qui, malgré les difficultés qu'ils peuvent éprouver, arrivent quand même à maintenir une bonne relation parentale l'un avec l'autre, l'impact est beaucoup moindre chez les enfants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, il va y en avoir. Mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus facile à gérer qu'un enfant, par exemple, qui est pris à travers soit une séparation très conflictuelle, qui par la suite est pris entre deux parents qui se chicanent mutuellement devant ou en l'absence d'eux. Parce que moi, je dis toujours aux parents, faut se rappeler que les oreilles ont des murs. Donc, c'est pas parce que je ne parle pas devant mon enfant qui n'est pas conscient de ce qui se passe.
Oui. Également, parfois, la rupture, on entend ça souvent, bon, c'est préférable des parents qui se séparent que des parents qui demeurent ensemble, mais que le conflit perdure. Est-ce que c'est vrai pour les enfants, ça?
Bien, ce que je lisais, les lectures que j'ai pu faire dans les dernières années, puis ce que j'ai pu observer, je pense que oui. C'est-à-dire que faut se rappeler, peu importe la façon dont ça va se produire, ça reste que faut pas minimiser l'impact sur l'enfant. Ça va être un moment difficile pour lui à passer.
Mm-hmm.
Ceci étant dit, je pense que une séparation qui est faite relativement bien, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a quand même beaucoup d'émotions à travers tout ça, l'impact sur l'enfant à long terme, je pense, est moins néfaste que de rester dans un milieu où est-ce qu'il y a continuellement des conflits.
Oui.
Je parle pas d'une chicane entre deux parents là, une fois de temps en temps, mais on parle dans un milieu où est-ce que c'est continuellement agressant et conflictuel et rempli de tensions. Ça nuit au développement de l'enfant.
Oui. On gère comment la culpabilité de l'enfant parce qu'il en a lui aussi, ses parents, d'entendre des enfants dire « Ah, oh, ben c'est à cause de moi si papa-maman se séparent ou c'est à cause de moi s'ils se chicanent. » Les enfants ont cette idée-là que ça vient d'eux, tout ça.
Absolument.
Lorsque c'est faux, là, il faut en parler, j'imagine, avec eux.
Oui. Idéalement, c'est ça qu'on va en parler sans non plus forcer. Je pense que c'est important au départ aussi d'avoir beaucoup d'ouverture, d'empathie et d'accueil avec les enfants. Donc, leur dire c'est normal ce que tu ressens. Reconnaître que ce qu'ils vivent, c'est tout à fait normal et leur nommer. Sans non plus chercher à trop rentrer dans leur bulle. Il y a des enfants qui vont avoir besoin là, de se détacher un petit peu de tout ça. Donc, on peut aussi en parler, je veux dire, quand tu es prêt, moi, je suis là pour t'écouter et réellement écouter. Ne pas chercher non plus à trouver mille et une solutions parce que les enfants, des fois, ils vont commencer juste à parler un petit peu de comment ils sentent. Puis nous, avec plein de bonnes intentions, bien, on tombe dans le mode solution. Alors que ce qu'ils ont besoin, c'est une écoute.
Oui.
Alors, prendre juste le temps de leur laisser nous parler, les accueillir, de valider ce qu'ils vivent, puis à la rigueur, si c'est difficile avec nous, des invités à en parler à quelqu'un d'autre.
Oui, à quel moment on se dit, OK, là, j'ai besoin de soutien, mon enfant a besoin de suivi, je dois faire des appels, que ce soit un médecin ou un psychologue. Est-ce qu'il y a des signaux qui sont révélateurs en ce sens?
Bien, c'est sûr que si les comportements perdurent dans le temps, ça dure, là, ça fait plusieurs mois, ça dure. J'ai l'impression qu'il y a des enfants, des fois, qui vont avoir aussi plein de signes dépressifs. Donc, si ça, c'est des signes qu'on voit apparaître, un enfant qui s'isole tout d'un coup, qui se coupe de ses amis, qui semble perdre intérêt dans des choses à lesquelles il était intéressé avant, je pense à un enfant, par exemple, qui fait beaucoup de sport, puis que tout d'un coup, il veut s'enfermer dans sa chambre régulièrement, devient soit au contraire très agressif puis ça dure, c'est clair que là, ça serait important de chercher à consulter. Ceci étant dit, étant coach familial, je dis souvent aux parents aussi, il ne faut pas non plus attendre d'être rendu au bout du rouleau avant d'aller chercher de l'aide.
Ouais, hein.
On peut aller en prévention aussi puis se dire, bon, ben qu'est-ce qu'on peut peut-être faire là pour mettre des choses en place, puis éviter peut-être de se rendre une escalade. On n'est pas obligé de toujours attendre à ce que ça explose.
Oui, on a tendance à faire ça. Au lieu d'aller dans la prévention, oui. Ben, on éteint le feu là, lorsque l'incendie est pogné. Hein?
Exactement. C'est pas toujours... Ben, c'est ça, moi, j'ai eu le privilège de travailler avec plusieurs parents qui, justement, m'appelaient au moment où est-ce que... Soit avant l'annonce de la rupture aux enfants, mm-hmm. ou tout de suite après, pour justement faire bon. Comment on arrive là, à quand même faire équipe, d'une part avec les parents, mais aussi avec les enfants, de dire, bon, ça va être différent, mais comment est-ce qu'on peut traverser ce moment-là ensemble?
Justement, Mélanie, l'annonce, bon, il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ce genre de nouvelles-là, mais est-ce que vous pouvez tout de même nous outiller un petit peu?
Oui, bien c'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement de bonne façon, mais il y en a des meilleures que d'autres. Idéalement, ça serait bien si les parents peuvent faire l'annonce à deux. Mm-hmm. Quand c'est possible, parce que bon, je suis consciente que parfois, c'est pas toujours le cas, mais quand c'est possible de faire l'annonce à deux, c'est qu'on s'en vient montrer aussi à l'enfant que malgré tout, même si nous, en tant qu'amoureux, on veut plus être ensemble, on reste quand même une équipe de parents pour les enfants.
Oui.
Alors, ça, je trouve que ça reste une façon très importante. Sinon, ben, choisir des moments, c'est peut-être pas un soir de semaine alors qu'il doit aller à l'école le lendemain. Mm-hmm. Privilégier la fin de semaine ou si on peut avoir quelques journées de congé. Puis j'invite beaucoup les parents aussi à aviser le milieu. Alors que ça soit les tout-petits qui sont en garderie, que ça soit à l'école, d'envoyer un petit courriel ou d'appeler un professeur pour dire, écoutez, voici ce qui se passe dans notre vie. Fait que les intervenants vont aussi être outillés puis être alertes parce qu'il peut avoir des impacts aussi ailleurs. Puis si on les informe pas, mm-hmm. ils sauront pas. Alors, ils seront pas nécessairement capables d'aider l'enfant à travers cette épreuve-là aux autres aussi.
Oui. Vous l'avez bien dit, on n'est plus des amoureux, mais encore des parents. Mm-hmm. Pour les parents, parfois, ça devient difficile dans cette période qui bouscule beaucoup de choses, de continuer à avoir les habiletés parentales là, bien en place. Comment on peut faire pour retomber sur nos pattes, continuer à exercer ça?
Bien, d'une part, je pense qu'entre parents, c'est important qu'on arrive à faire vraiment la distinction entre le conjoint et le parent. Mm-hmm. C'est vraiment deux chapeaux complètement différents. Je peux avoir été dans une relation avec un homme qui, moi, je trouve qu'a été un très mauvais conjoint. Ça ne fait pas de lui un mauvais père.
Mm-hmm.
Alors, c'est important d'être capable de faire la part des choses. Pour moi-même, si c'est moi qui le vis, rapidement se mettre en place aussi un réseau de soutien.
Ouais.
Donc, d'avoir des gens envers qui je vais pouvoir aller chercher de l'aide quand j'en avoir besoin. Autant avoir des gens qui vont pouvoir m'écouter si j'ai juste besoin de ventiler, d'avoir des gens qui peuvent me donner un coup de pouce si là, tout d'un coup, je suis pris. Parce que là, c'est toute mon organisation familiale qui va changer. Avant, nous étions deux. Et là,
oui,
je tombe toute seule.
Oui.
Alors, prévoir, c'est sûr qu'il y a des parents, quand ils ont une bonne relation, ils sont capables de se fier quand même à l'autre parent, mais j'invite toujours les parents à quand même se doter d'un plan B.
Oui.
Parce que sinon, ça peut devenir aussi source de tension. Alors, tout ça, prévoir, bon, dans mon cercle d'amis, de famille, y a-t-il des gens, si par exemple, je suis pris au travail puis que mon enfant, on m'appelle à l'école, on m'appelle de l'école pour me dire qu'il est malade, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut aller le chercher? Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut me donner un coup de pouce dans des tâches à la maison, par exemple?
Oui.
Parce que c'est vraiment une autre. Puis se donner le temps. Comme adulte, là, je pense qu'il faut se donner le temps. Faut autant qu'il faut accueillir l'enfant, il faut s'accueillir nous aussi là-dedans. C'est une épreuve à traverser, c'est un moment de changement. Donc, on peut aussi décider de voir qu'est-ce qui est prioritaire.
Mm-hmm.
J'ai pas besoin non plus d'avoir la maison super propre, toute rangée, de brûler la chandelle par les deux bouts. Je peux décider d'adoucir un petit peu la pédale de ce côté-là, puis de faire des choses qui me font plaisir, justement, pour nous aider à revenir ensemble, tout le monde ensemble.
Si les deux parents s'entendent bien, ont une bonne relation, bon, c'est déjà une bonne chose. C'est pas toujours le cas, surtout au début. Les façons de communiquer entre les parents sont différentes, mm-hmm. mais l'enfant est toujours au cœur de ça. Si, bon, il a dû avoir un rendez-vous chez le médecin, si à l'école, ça se passe pas aussi bien qu'on le voudrait, comment les parents peuvent continuer à avoir cette communication-là?
Je pense que c'est surtout avec maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est important de communiquer et sans que ça soit l'enfant qui devienne l'intervenant là, entre les deux,
ouais,
devienne mm-hmm. le messager.
Mm-hmm.
Fut un temps où est-ce qu'on utilisait beaucoup, par exemple, des agendas de communication. Donc, l'enfant partait avec son agenda dans le sac à dos, mais ça, ne demeure pas moins que c'est quand même lui qui avait la responsabilité de le transporter. Maintenant, la technologie fait en sorte que c'est plus nécessaire. Donc, tout ce qui est courriel, texto, téléphone, j'encourage tout le temps d'être capable de se parler de vive voix ou au téléphone, c'est déjà mieux qu'un texto ou un courriel où est-ce qu'on n'a pas nécessairement tout le non-verbal de l'autre parent, on peut l'interpréter de façon très différente.
Mm-hmm.
Alors, justement, de tenter de communiquer le plus possible sans le biais de l'enfant. Éviter de dire, là, ben là, tu diras à ton père là, que vendredi, telle chose. C'est nous les adultes, c'est nous qui prenons les décisions pour l'enfant, alors c'est à nous de s'en occuper ensemble entre adultes et éviter de mettre l'enfant entre les deux. Mmh.
Tout à l'heure, on parlait que la séparation, le divorce engendre énormément de changements de routine, des transitions aussi, changement d'école, parfois changement de maison. Bon, ça se passe pas chez papa comme chez maman. On adoucit comment ce passage-là pour notre enfant?
Idéalement, on essaie de maintenir tout ce qui est routine. Alors, la façon dont ça se produisait avant, la séquence des routines, on le maintient, c'est très rassurant pour les enfants. Les règles de vie, quand même bien que je passe d'une maison à un appartement, peuvent très bien rester les mêmes. Alors, c'est important pour les parents de maintenir les règles familiales qu'on avait, restent les mêmes, même si on n'est plus ensemble, même si je suis tout à fait consciente que mon enfant va passer des hauts et des bas. Alors, ça ne veut pas dire, parce que là, souvent aussi, le parent, il se sent coupable de faire vivre ça à son enfant, parce que c'est quand même, n'empêche que c'est une réalité où est-ce que c'est pas les enfants qui choisissent, là. Eux autres, ils subissent ce qui se produit. Alors, il faut éviter comme parents aussi de tomber du côté de la culpabilité. Et là, on donne plein de passe-droits à nos enfants.
Ouais.
On leur permet de nous parler sur un ton très irrespectueux et arrogant. On leur permet de rentrer à n'importe quelle heure. Ça, ça change pas. Puis ça se dit très bien aussi de dire, je comprends que ce que tu vis, c'est pas facile. Je comprends que tu as de la colère. J'ai aucun problème à ce que tu l'exprimes, mais regardons ensemble de quelle façon tu peux l'exprimer. Parce que de cette façon-ci, c'est pas permis chez nous.
Mm-hmm.
Ne l'était pas avant, ça ne sera pas plus aujourd'hui.
Oui.
Alors, cet amour-là de fermeté, ça en fait partie.
Il y a la culpabilité, il y a la peine aussi, parce que soudainement, notre enfant, on ne le voit que 50 % du temps.
Mm-hmm.
Il n'est pas toujours avec nous, on n'a pas toujours le regard sur lui. Il y a des parents qui s'ennuient de leur enfant. Est-ce que c'est OK de le communiquer à notre enfant lorsqu'il quitte chez papa, chez maman, « je vais m'ennuyer de toi » ou ça amène une espèce de pression chez l'enfant?
Je pense qu'il faut faire attention parce qu'il faut toujours se rappeler que moi, dans ma tête d'adulte, j'interprète les choses de façon très différente que l'enfant, qui lui n'est pas nécessairement encore rendu là dans son stade de développement. Même les adolescents, hein, notre cerveau, il n'a pas encore atteint sa pleine maturité quand on est adolescent. Alors, moi, avec plein de bonnes intentions pour lui dire « ah, tu sais, je vais penser à toi, je vais m'ennuyer de toi », ben lui, il peut l'interpréter « ah non, qu'est-ce qu'il va faire sans moi?
Mm-hmm. »
Fait que je pense qu'il faut faire attention. Si l'enfant me demande « est-ce que tu vas t'ennuyer de moi? » Ben c'est sûr, je vais m'ennuyer de toi quand t'es pas là, je m'ennuie de toi, mais tu sais, je vais quand même faire mes choses, puis je vais être très correcte, puis on va se revoir dans une semaine, ou on va se revoir dans trois jours, peu importe. Puis de lui donner la permission d'être heureux chez l'autre parent.
Ah, bon, ça,
et toi,
important.
Mais tu vas passer une bonne semaine.
Oui. C'est assez précieux, ça, comme cadeau à offrir à son enfant, hein, de pas relancer les angoisses ou les appréhensions sur notre enfant. En terminant, parce qu'on aurait pu faire une émission entière là-dessus, Mélanie, l'aliénation parentale qui est très problématique et qui a énormément d'impact sur le bien-être de l'enfant. C'est quoi d'abord et comment on peut reconnaître l'aliénation parentale?
Bien, l'aliénation, souvent, ça va arriver où est-ce que là, on va avoir... Ça devient un peu comme une campagne de salissage de l'autre parent. Donc, j'ai un des deux parents qui devient le parent aliénant, qui va avoir ça, des paroles toujours méprisantes sur l'ex-conjoint. Va l'empêcher, par exemple, de communiquer certaines informations au professeur. Va empêcher, si le parent demande une autorisation spéciale pour faire une activité avec l'enfant, va refuser de signer toutes sortes de consentements. Pourrait faire par exprès pour créer des activités ou réserver des activités dans le temps de garde de l'autre parent. Donc, jamais sans lui en parler. Fait que là, j'offre un cadeau à mon enfant, on s'en va faire telle activité, mais ça donne que c'est toujours dans la semaine de papa. Donc, à ce moment-là, puis à travers tout ça, ben ne cache pas ça devant l'enfant.
Mm-hmm.
Alors, va en parler ouvertement devant l'enfant. C'est un parent aussi souvent qui va avoir bien de la difficulté à dire quelque chose de positif sur l'autre parent. Donc, c'est toujours des paroles destructrices, oui, où est-ce que l'enfant va finalement se retrouver pris dans un conflit de loyauté.
Mm-hmm. Voilà.
Puis, à ce moment-là, ça arrive aussi parfois que certains enfants vont se ramasser un peu pris dans le piège où est-ce qu'ils vont finir par acheter les croyances et les paroles du parent aliénant Et là, ben, il se rallie avec lui. Mm-hmm. Ce qui peut avoir des impacts quand même assez néfastes sur son développement, je pense, son développement affectif, parce que il n'arrive plus nécessairement à faire la distinction entre ce qui est vrai et ce qui est créé, le côté faux, parce que, bien évidemment, le parent aliénant va pas... Ça relève souvent de fausseté. Oui. Alors, on accuse l'autre d'abus, on accuse l'autre de faire des choses qui sont pas correctes. On peut faire des faux signalements, par exemple, à la DPJ, à la police. Et là, l'enfant vient à croire que ce que son parent lui dit, c'est vrai.
Oui, et ça alterne, bien sûr, la relation qu'il a avec l'autre parent.
Absolument.
Donc, on reste vigilant et puis... parce qu'évidemment, on ne souhaite pas ça pour nos enfants, mais c'est important de le dire, Mélanie, ça arrive vraiment pas dans toutes les familles qui se séparent ou qui divorcent.
Là,
hein.
Pas du tout.
De le rappeler. Mélanie Dugas, toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes coach familial, conférencière, formatrice et fondatrice de Grandir. On glissera votre site web sur le nôtre.
Je vous remercie infiniment.
Merci, bye-bye.
Bonne journée.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzebois.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
José-Lisa Lefrançois, bonjour.
Bonjour, Mme Paquette.
Vous êtes directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Là, pour nous parler de cette campagne intitulée « Encore là » en ce mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer, une campagne pour, je dirais, éloigner les préjugés qu'il y a envers les personnes qui vivent avec une maladie cognitive. Vous avez effectué un sondage qui est assez révélateur, Mme Lefrançois.
Oui, tout à fait, avec des résultats qui viennent nous encourager à tenir une telle campagne, effectivement. Alors, c'est une enquête Nanos qui a été menée et qui nous révèle que les Canadiens sont vraiment divisés à l'idée qu'on propose qu'effectivement, c'est possible de bien vivre avec une maladie cognitive. En fait, on parle de résultats qui rejoignent ou atteignent les 47 % des personnes interrogées qui sont en désaccord, ouais, ou plutôt en désaccord avec la proposition qu'on fait, là, à l'effet, mm-hmm, qu'il y a moyen d'avoir une certaine qualité de vie lorsqu'on est diagnostiqué. 47 %, ce qui est quand même beaucoup.
Oui, c'est énorme. C'est presque la moitié des, mm-hmm, Canadiens, donc, qui pensent que lorsqu'on a un diagnostic de maladie cognitive, la vie s'arrête. Or, ce n'est pas le cas.
Exactement. D'où vient justement l'idée de cette campagne qui a pour titre « Encore là », qui veut changer cette idée préconçue, négative à l'endroit des personnes atteintes et dédramatiser aussi la maladie. En fait, changer la perception des gens, la perception qu'on peut entretenir face aux personnes atteintes, cette attitude plutôt négative et où on pense carrément que la vie s'arrête lorsqu'un diagnostic est donné.
Oui. Ce que l'on rappelle aussi à travers cette campagne, c'est que c'est du cas par cas. Hein. Une personne va recevoir un diagnostic, la maladie n'aura pas le même impact dans sa vie qu'une autre personne. Donc, de considérer la personne avant la maladie, ça, je trouve que c'est un message qui est important à répéter.
Très important. Vous parliez de cas par cas. C'est tout à fait la situation. Le rythme de progression dans l'évolution de la maladie varie vraiment selon les personnes. Alors, on peut parler de personnes qui vont vivre avec la maladie entre 8, 10 ans, peut-être même plus. J'ai même déjà entendu parler du cas d'un monsieur qui, lui, avait vécu de façon très, très progressive dans cette maladie-là jusqu'à 20 ans.
Mmh.
Alors que chez d'autres, les effets de la maladie vont s'installer très, très rapidement et un décès peut survenir en dedans de 4 ans. Mmh. Alors, c'est vraiment du cas par cas, comme vous le dites.
Oui. Également, et ça me marque, ce sont souvent nos idées préconçues, nos préjugés qui auront un impact majeur sur la santé des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.
Tout à fait. En fait, on remarque souvent parmi les effets néfastes de cette attitude-là qu'on peut entretenir envers les personnes atteintes, l'isolement. qui va en résulter. Les gens vont avoir peur soudain de que leur proche ait tellement changé, juste à l'évocation du mot Alzheimer, qu'ils ne le reconnaîtront pas, qu'ils n'auront pas la même relation avec lui. C'est certain que quand on parle de cas par cas et d'évolution de la maladie, il faut se dire aussi que les choses y vont de façon très, très progressive. Mm-hmm. Alors, du jour au lendemain, à partir du moment où le diagnostic est émis, la personne reste la même. C'est pour ça qu'on veut mettre l'ampleur sur la personne et non sur la maladie.
Oui.
Mais ce qui arrive, et c'est vraiment très, très triste à constater, c'est que les gens vont s'effacer, le réseau social va se diluer tranquillement, pas vite, et la personne va se retrouver seule avec elle-même. Alors, et là, quand je parle de la personne, c'est autant la personne atteinte que le proche aidant aussi,
voilà.
Qui vit avec, en relation avec cette personne-là.
La famille immédiate est touchée aussi beaucoup.
Ah, tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est vraiment très néfaste parce que s'il y a un support et s'il y a quelque chose qui est important, c'est justement que le tissu social soit très serré autour de ces gens qui vivent les conséquences de la maladie.
José-Lisa, quelles sont les actions concrètes de la campagne Encore là?
En fait, les actions concrètes, évidemment, qu'on veut d'abord que les gens se mettent en tête que la personne est là d'abord et avant tout. Elle reçoit un diagnostic de maladie. La maladie suivra son cours selon un modèle qui semble préétabli selon les personnes, quand on parle de cas par cas. Ce qu'on peut faire de très concret, c'est peut-être, entre autres, de s'informer. Moi, je pense que la base est là, c'est de s'informer sur la maladie d'abord, d'en apprendre un peu plus sur ce qui s'en vient, sur ce qui est à prévoir, d'être là pour les personnes qui sont atteintes et la famille, bien sûr, de vivre dans le moment présent avec ces gens-là, de voir la personne, donc, dans ce qu'elle a à nous apporter, de continuer à communiquer avec elle, d'avoir une attitude positive et de dédramatiser.
Mm-hmm. On peut se rendre sur le site alzheimer.ca/, encore là. Est-ce que cette campagne-là va se poursuivre après le mois de janvier?
En fait, oui. Et dans les actions, les services qu'offrent les sociétés Alzheimer régionales, c'est dans le fond le message qu'on passe de façon constante. Alors, évidemment, pour la campagne, là, on invite les gens à visionner, entre autres, une petite vidéo de 30 secondes, la partager aussi avec d'autres pour se sensibiliser davantage, pour en apprendre davantage. Mais auprès des sociétés, vous pouvez avoir un accompagnement constant à tous les jours de l'année et en savoir un peu plus sur la maladie, puis être accompagné aussi dans vos questions. Si vous avez des problèmes, par exemple, vous vivez une relation avec quelqu'un qui est atteint, puis vous vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas trop comment agir, comment communiquer, ben informez-vous auprès des intervenants des sociétés Alzheimer et vous en saurez plus sur la maladie et sur l'attitude à prendre aussi avec les personnes que vous aimez.
747 000 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au Canada, plus leurs proches, ça fait pas mal de monde. José-Lisa Lefrançois, vous êtes directrice générale par intérim de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer pour cette campagne de sensibilisation. Encore là, merci beaucoup de nous en avoir parlé aujourd'hui.
Merci, Mme Paquette.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, c'est Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été des nôtres pendant ces derniers jours. Portez-vous bien, reposez-vous, puis nous, on se retrouve 14 h lundi. Bye-bye.